Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission À nous le futur. C'est Claude Saint-Jacques qui vous parle et je pourrais dire maintenant à la, madame la jeune étudiante qui est en grève, c'est à vous le futur. Alors, donc là, il y a beaucoup de stages occupés aujourd'hui à Sherbrooke, à l'Université de Sherbrooke, vous êtes en grève. Vous allez aller au bureau de madame Brière tout à l'heure?
Oui, on a une manifestation qui est prévue vers 15h qui va partir de l'Université du campus. Et on va marcher vers le bureau d'Elisabeth Brière, qui est la députée fédérale libérale en ce moment.
Mm-hmm. Et vous avez, je pense, quelque chose au bureau du recteur?
Oui. À midi, on a aussi un pique-nique devant les bureaux du rectorat, un peu pour être visible devant le rectorat qui nous a réprimés durant le campement.
D'accord. C'est, je crois, selon un message que j'ai, 50 000 étudiants, étudiantes qui seront officiellement en grève. Et puis, c'est pourquoi que vous l'êtes? C'est vous dénoncez la complicité de...
On dénonce la complicité de notre université dans le génocide palestinien. C'est surtout à travers des investissements ou des partenariats qu'elle a avec des compagnies qui participent directement à l'industrie de la guerre et qui ont des contrats avec Israël ou l'armée israélienne. Donc on est là pour contester ça et pour dire à notre université que nos frais de scolarité et notre éducation, elle n'ira pas dans l'appui à un génocide qui est le génocide palestinien.
D'accord. L'embargo bilatéral sur les armes, c'est ça, vous demandez l'arrêt de ça aussi?
Oui.
Que Israël soit un État voyou, c'est, vous l'appuyez, oui, c'est ça. Fait que vous avez d'autres choses à ajouter?
Ben, juste mentionner que, en fait, beaucoup pourquoi on est là aujourd'hui, c'est que cet été, il y a eu un campement sur le campus de l'Université de Sherbrooke, comme un peu partout dans le Québec et dans le Canada et même dans le monde. Mm-hmm. Et c'est un campement qui a été un peu violemment réprimé par l'université à travers son service de sécurité. Ils ont employé beaucoup de mécanismes comme des plaintes disciplinaires pour effrayer les étudiants. Et les journées de grève d'aujourd'hui et de demain, c'est juste un rappel à l'université que malgré la répression qu'ils mettent en place, malgré toutes les menaces qu'une institution peut essayer d'employer contre des étudiants qui s'opposent à une violence en Palestine, ben, on restera là et ça nous fait chaud au cœur aussi de voir que les associations étudiantes se sont jointes à notre appel et ont organisé des AG de grève et de voir la communauté étudiante se mobiliser et voter en faveur de ces grèves-là. C'est quelque chose qu'on attendait un peu depuis le campement. Au campement, on n'était pas beaucoup parce que c'était une session d'été. Et là, de voir que la session d'automne, les étudiants ont répondu à l'appel, c'est très beau à voir.
Mm-hmm. Et je vois qu'il y a des organismes de bienfaisance israéliens qui soutiennent la violence, qui sont favorisés par le Canada, quelque chose comme ça?
Ouais. En fait, le Canada a des espèces d'ententes hyper variées, que ce soit en termes... Bon, là, il y a un embargo militaire, techniquement. Donc, normalement, le Canada fournit pas d'armes à Israël. Mais c'est faux parce qu'il y a des compagnies canadiennes et québécoises qui vendent aux États-Unis et les États-Unis vendent à l'armée israélienne. Donc, il y a un peu des contournements. Puis, il y a des organisations de bienfaisance qui sont aussi impliquées de manière directe ou indirecte avec l'armée israélienne. Donc, le Canada, même s'il prétend ne pas participer, il participe largement.
Puis il y a General Dynamics qui est sur Galt en ce moment,
ouais.
Qui fait des roquettes via Repentigny.
Exact.
Et Lockheed Martin a une subvention d'un million et demi ici.
Ouais.
Puis Total, est-ce qu'ils font partie de l'armement? Je pense indirectement peut-être.
C'est possible indirectement, mais ce n'est pas une compagnie qu'on a vraiment visée en termes de participation.
D'accord.
Pour nous, c'était vraiment Lockheed Martin qui a financé l'Institut Quantique. C'était beaucoup General Dynamics parce que le contrat dont je parlais, qui a été conclu avec les États-Unis, qui vend lui-même à l'armée israélienne, c'était General Dynamics. Donc, c'est surtout eux qu'on vise. Puis, évidemment, Bombardier ou d'autres compagnies de ce genre-là, même si leur industrie principale, ce n'est pas l'industrie militaire, ils contribuent largement à l'industrie militaire.
D'accord. Alors, je vous félicite et je vous souhaite bonne chance aujourd'hui et demain.
Merci.
Et pour le reste, pour la paix totale,
ouais.
Tout de suite, si possible. Alors, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Bonjour. Alors là, il y a un changement de micro. Changement de haut-parleur, de micro. C'est M. Pierre Jasmin qui arrive maintenant.
Salut Claude.
Oui, bonjour Pierre. Vous êtes secrétaire des artistes pour la paix, un pianiste international, oui. Un professeur, ancien professeur à l'UQAM.
Exact.
Et puis, actuellement, je crois que c'est la grande polonaise plutôt que la sonate à la lune qui prédomine.
Non, ni l'un ni l'autre. Il y a un nouveau disque.
Parce que j'ai seulement 7 ans de piano, moi.
Écoute, je pense que tu as mal présenté. Enfin,
oui, ça
mal,
se peut,
mais
oui,
tu
oui.
n'as pas présenté HCR, donc qui représente quand même la forte communauté ici étudiante.
D'accord.
Qui a décidé de s'impliquer dans la grève et dont on vient d'entendre des paroles toutes irréprochables. J'adore son. À quel point elle est informée et je la remercie beaucoup de faire ça en notre nom à tous, même si j'ai 75 ans. je trouve que les étudiants représentent, dans le fond, ce que tous devraient faire actuellement, parce qu'on est complètement réprimés pour dire la vérité. Remarquons juste ce qui est arrivé au député de Québec solidaire, Haroun Bouati, qui a été réprimé toute la semaine, humilié par Radio-Canada, les mordus par les journaux et tout ça, alors qu'au départ, tout ce qu'il disait, c'est de attention, vous ne parlez pas du principal problème qui est que, dans le fond, Israël est en train de commettre un génocide, un mot que personne voulait prononcer. Et depuis ce matin, miracle, parce que la Cour pénale internationale a décidé vraiment d'accuser et de lancer un mandat d'arrêt contre Netanyahou et contre le Hamas d'ailleurs, mais ça, et les deux sont coupables, mais Netanyahou beaucoup plus, parce que on sait que 55 000 personnes à Gaza ont été tuées ou sont disparues, et 70 % c'était des femmes et des enfants.
Oui.
Et pendant 4 jours, on a eu au Québec une sorte d'omerta là-dessus pour accuser un député parce qu'il avait fait un discours devant des musulmans qui n'étaient pas à leur goût. Et c'est épouvantable comme situation. On est en train de nous empêcher de voir une situation qui est horrible, qui est complètement absurde. Tu sais, le devoir, Radio-Canada, pour eux, le génocide, non, c'était rien. Jusqu'à ce matin, quand l'ONU a finalement décidé de mettre en action ce qui se préparait depuis l'intervention de l'Afrique du Sud dans la Cour internationale de justice il y a quelques mois, et que là, c'est effectif. Si Netanyahou voyage dans les 124 pays qui ont appuyé le statut de Rome, il risque complètement de se faire arrêter, même le Canada et un de ces pays-là, bon, pas les États-Unis, évidemment, qui ont tout de suite mis un veto à la motion de l'ONU qui demandait que... qui demandait
D'arrêter Netanyahou.
Qui demandait un cessez-feu. Ouais, non, mais qui... Non.
Un cessez-le-feu
aussi. Qui demandait simplement à nouveau un cessez-le-feu total, permanent et... Donc, dans la bande de Gaza, et que ça va prendre juste le veto des États-Unis, et même s'il y a 180 pays qui ont approuvé ça, ils sont traités comme lettres mortes à cause de cette infamie par Biden qui continue ses stupidités d'envoyer des armes en Ukraine, et puis qui continue à... Enfin, qui est complètement isolé, et aux États-Unis, et maintenant dans le monde entier.
D'accord.
Et nous, le Canada, on est pour ça.
D'accord. Et ce que vous disiez au début, pour rétablir ma présentation incorrecte, à 100%, est-ce que c'est rééquilibré maintenant, ça va?
Oui.
OK, merci. D'accord. Alors, pour mettre le focus un peu, mais bon, nous sommes en guerre permanente mondiale depuis 40 ans, en tout cas. Fait qu'aujourd'hui, le 24, c'est ce dont vous voulez me parler, là.
C'est dimanche, le 24, oui.
D'accord. Vous allez demander 14 choses au Canada, alors que vous faites, dans votre document que j'ai, là, la déclaration qui demandera l'adhésion consensuelle du contre-sommet anti-OTAN. Vous avez « alors que », j'en ai compté 12. On ne peut pas lire tout ça, là. Mais vous demandez...
Mais pourquoi pas?
pourquoi pas? OK, choisissez donc celui que vous préférez ou ceux que vous préférez.
Ben, on met la table d'abord en disant que le Canada est membre fondateur de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord en 1949. Il a participé à toutes les interventions de l'OTAN, y compris de nos jours, en Ukraine, enfin, mm-hmm. au bord de l'Ukraine. Mm-hmm. L'OTAN, c'est une alliance militaire offensive dominée par les États-Unis et qui entrave la souveraineté et le contrôle civil du Canada sur nos forces armées et nos politiques de défense et nos politiques diplomatiques. C'est ça le grand scandale d'être inscrit à l'OTAN. Mm-hmm. L'OTAN n'a pas respecté l'article 1 de sa charte qui est de régler tout différend international dans lequel elle pourrait être impliquée par des moyens pacifiques. Mm-hmm. L'OTAN a lancé des interventions illégales contre la Yougoslavie en 1999, contre l'Afghanistan en 2001 et contre la Libye en 2011, qui ont toutes provoqué des morts massives de civils, la destruction d'infrastructures, une crise de réfugiés sans précédent dans l'histoire de l'humanité et une dégradation de l'environnement naturel avec des mines terrestres, de l'uranium appauvri et des armes à sous-munitions. Les pays de l'OTAN ont provoqué le conflit actuel en Ukraine en s'étendant sur 800 km vers l'est en direction de la Russie, malgré les promesses contraires faites à M. Gorbatchev lors de la chute du mur de Berlin, en soutenant à Kiev la junte banderite installée par un coup d'État inspiré par les États-Unis en 2014 contre le gouvernement démocratiquement élu de Yanukovych, en armant au mépris de l'ONU et des traités de Minsk de l'ONU le gouvernement putschiste dans sa guerre contre la région russophone du Donbass.
D'accord, Pierre.
Et en sollicitant activement l'adhésion à l'OTAN de l'État ukrainien qui était auparavant neutre. Alors, c'est une question, bon, on peut parler aussi que l'OTAN a terrorisé les Inuits. Je sais que tu aimes beaucoup parler de nos Autochtones,
oui.
du Labrador Nitassinan, pendant un demi-siècle avec ses vols d'entraînement de chasseurs à réaction à basse altitude pour lesquels la Nation unie n'a jamais été, la Nation Inuit, je devrais dire, n'a jamais été rémunérée. Alors, c'est très... Et surtout, moi, ce dont je vais parler spécifiquement dimanche avec un diaporama, c'est que l'OTAN s'appuie sur la doctrine dangereuse MAD, qui veut dire Mutual Assured Destruction, sans remettre en question son premier recours à l'arme nucléaire, alors que la Chine, par exemple, l'a exclu.
Oui,
et que la Russie, non. Par contre, la Russie multiplie des gestes dangereux actuellement, des paroles dangereuses.
OK. Une question, si tu permets.
Je t'en prie.
Tu sais, Zelensky, Monsieur Zelensky, qui veut adhérer à l'OTAN, comment qu'on peut le situer là-dedans?
Ah, Zelensky, c'est un drame. Mais c'est un drame terrible parce que il est arrivé au pouvoir en promettant qu'il serait ni du côté du pro-russe Yanukovych, ni du côté du fasciste Porochenko, qui venait de faire 4 ans terriblement nocifs pour l'Ukraine.
Mmh.
Et la population l'a plébiscité dans un vote surprenant à 70% contre l'ancien président Porochenko et tout ça.
Mmh.
Sauf qu'arrivé au pouvoir, il a été mis sous pression par les fascistes ukrainiens et qui lui ont dit « Non, tu vas dans notre politique nationaliste et contre les russophones du Donbass, sinon on te fait exploser. » Et il est devenu l'espèce de parangon de militariste actuellement pour son pays et qui refuse les motions, dans le fond, de neutralité ou les notions qui feraient en sorte que son pays puisse signer une paix honorable, qui laisserait, par exemple, partir la Crimée et les États russophones. Oui. Mais rappelons que ces États russophones du Donbass, au départ, voulaient rester en Ukraine. Okay. Et ce n'est pas la Russie qui les empêchait, elle les appuyait. C'est Zelensky qui a refusé ce compromis-là.
OK. Monsieur Jasmin, vous allez faire 7 demandes le 24, et dans la 7e, il y en a 7 aussi. Et puis, pour respecter nos étudiants qui sont en grève aujourd'hui, le 7 E et F, c'est une demande que le Canada reconnaisse l'État palestinien et puis qu'il soutienne les résolutions pro-palestiniennes à l'Assemblée générale. oui. des Nations Unies.
Et qui suspendent les relations diplomatiques avec Israël jusqu'à ce qu'Israël accepte un cessez-le-feu à Gaza et au Liban.
Mm-hmm. Oui. Et puis, bon, mais si on passe à la première demande, c'est que le Canada se retire de l'OTAN.
Oui, c'est... Le Canada est prisonnier actuellement de l'OTAN. Et le problème, c'est que les pays de l'OTAN viennent en fin de semaine à Montréal. Hein. Ils
ont
leur réunion. C'est pourquoi on fait cette action. Que Échec à la guerre organise des manifestations vendredi et samedi. Mm-hmm. Et, et nous organisons aussi, les Artistes pour la paix, cette journée du dimanche qui va avoir lieu donc, à la Maison des travailleurs grecs sur l'avenue du Parc à Montréal, et puis avec toutes sortes de demandes.
Mm-hmm. Voilà. Puis la deuxième demande, c'est cesser d'alimenter la guerre en Ukraine et rechercher plutôt une fin négociée au conflit.
Oui.
Bon, donc c'est les deux préférés, là, actuellement?
Ben, c'est deux essentiels, parce qu'on est pour la paix, donc tu pointes deux propositions qui sont anti-guerre, donc c'est, tu as tout à fait raison de choisir ces deux-là. Mais il y en a d'autres. Dans le fond, moi, si tu regardes mon dossier, je te montrerai ça à un moment donné, mon dossier anti-OTAN, il fait partie d'un dossier qui est pro-ONU, qui est 10 fois plus volumineux. Donc, ce n'est pas une question normale qu'on soit obligé d'être négatif, alors que on préfère être pour l'ONU. Et en particulier, c'est ça, historiquement, je veux penser qu'en 2003, j'étais le pianiste invité pour la présentation du doctorat honorifique à Philippe Kirsch, qui, à l'époque, venait de faire justement adopter le... statut de Rome par l'ONU, qui a créé la Cour pénale internationale et le tribunal international, les deux, dont il est devenu le premier juge. Et à cette occasion-là, bien sûr, j'avais lu cette grande déclaration du statut de Rome, qui a été refusée par les États-Unis, Israël, la Chine, et je ne me souviens plus, un autre pays assez important, je pense que c'est l'Inde. Mais non, je ne voudrais pas m'avancer là-dessus.
D'accord.
Mais c'est une composante, justement, de l'ONU assez extraordinaire et qui est utilisée aujourd'hui. Et j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à persuader les contestataires que l'ONU n'est pas un ennemi, une ennemie, mais au contraire, c'est une alliée qui agit lentement, mais qui agit selon des règles précises et qu'il faut l'appuyer parce que on a si peu d'appui actuellement, surtout avec l'arrivée imminente de Trump au pouvoir aux États-Unis ou de Poilievre ici au Canada. Et il faut avoir une contestation intelligente, disciplinée et qui puisse marquer des points.
D'accord.
Et c'est ce qu'on avait fait avec... j'ai envoyé, bien sûr, tous ces documents sur le doctorat honorifique de 2003 à mon recteur actuel à l'UQAM, et qui avait une politique de confrontation avec les étudiants qui occupaient l'UQAM, comme les étudiants de Sherbrooke aujourd'hui. Vont se présenter devant leur recteur dans quelques minutes. Et j'avais convaincu le recteur de dire non, ne pensez pas à la façon dont les étudiants, par exemple, ont créé des graffitis terribles sur le bâtiment Pierre Dansereau, qui était un de mes amis personnels les plus proches, avec qui je suis allé en vacances en Gaspésie et tout ça. Je dis, ne pensez pas à ça, pensez à ce que l'ONU met de l'avant. Et c'est comme ça que le syndicat, dans lequel j'ai gardé beaucoup d'amis, le syndicat des professeurs, mais aussi les étudiants qui sont représentés au conseil d'administration de l'UQAM, ont réussi à persuader le recteur de faire, dans le fond, une politique dans laquelle il s'interdirait justement ce que Achia tout à l'heure mentionné, c'est-à-dire les investissements de compagnies militaires dans les universités et qui noyautent et qui font que les professeurs sont obligés d'être silencieux sur toutes sortes de dossiers absolument critiques et sur lesquels, au contraire, il faudrait que les professeurs en sciences politiques se prononcent tous d'un côté de la paix, mais ils ont peur.
D'accord. Ouais. Alors, merci, bravo pour ça. On s'en va en pause commerciale et on revient.
Merci.
Alors, bonjour, vous êtes à nous le futur, c'est Claude Saint-Jean ici, et à vous le futur, chers étudiants en grève. À vous le futur, M. Jasmin. Ce que vous allez demander le 24 aussi, là, c'est au Canada de réduire considérablement les dépenses militaires en faveur d'une augmentation des dépenses consacrées aux programmes sociaux. C'est ce que l'ingénieur industriel C. Moomelman demande souvent, que les groupes de paix demandent. Et puis, vous allez demander de signer et ratifier le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, ce qu'on n'a pas réussi à faire à la ville de Sherbrooke avec la mairesse pour la paix.
Oui, Pascal Camiran. Et oui, bien, écoute, leur réponse n'a pas été non, là, donc il faut toujours espérer qu'ils voient la nécessité pour la grande municipalité de Sherbrooke d'appuyer le traité sur l'interdiction des armes nucléaires qui nous protégerait davantage.
Alors, il nous reste 5 minutes pour parler de votre conférence pour penser la politique étrangère du Québec indépendant. C'est intéressant.
Oui, c'est la semaine dernière, le 13. J'ai été invité par le mouvement Québec indépendant, le MQI, pour penser la politique étrangère d'un éventuel Québec indépendant. Mm-hmm. Et la principale présentation était par Daniel Turp. Mm-hmm. Et ça tombait bien parce qu'on l'avait nommé en 2020 ami de la paix pour tout ce qu'il faisait, entre autres, quand il organisait ses manifestations de ses étudiants de l'Université de Montréal, dont il est professeur émérite, où il les organisait pour et d'éventuelles missions auprès des tribunaux pour faire en sorte d'essayer d'arrêter le flot de 15 milliards d'armes, de tanks pour l'Arabie saoudite, qui est un pays, comme tu sais... exemplaire démocratiquement, avec 100 personnes tuées, exécutées dans le dernier mois, avec sa politique de femmes et, entre autres, le tragique emprisonnement de Raif Badawi, dont la femme ne s'en peut plus d'entretenir avec, sans lui, sa famille de 3 enfants. Mm-hmm. Alors, donc, il a fait une très, très belle présentation, mais où il recommandait quand même que le Québec indépendant s'affilie à l'OTAN et au NORAD.
OK.
Et donc, je suis intervenu ensuite, et aidé par Louise Beaudoin, ancienne ministre de la Culture, mais ancienne ministre des Affaires internationales du Québec à l'époque, auprès de René Lévesque et tout ça. Donc, j'ai réussi, je pense, à infléchir cette volonté, dans le sens que Daniel m'a dit, après la conférence, c'est pas officiel, mais il m'a dit vraiment que ma vision des choses correspond tout à fait à cette vision positive qu'il a des relations diplomatiques. Et évidemment, il y a des contraintes, mais celle-là, il comptait bien la lever. Mmh. Éventuellement. Et j'ai reçu aussi une belle lettre de Louise Beaudoin me félicitant de la présentation des artistes pour la paix que j'avais donnée. Et vous pouvez trouver tout ça sur notre site. J'en parle toujours à la radio parce que personne n'en parle par écrit.
Okay.
Alors que c'est là que ça serait utile de mentionner qu'allez lire nos articles sur artistepourlapaix.org, parce que nous sommes un organisme et non parce que nous ne sommes pas commerciaux.
D'accord. Bien, merci beaucoup. Souvenez-vous ça, les gens qui écoutent, là. Et puis, vous aussi, vous vouliez me dire que vous avez un nouveau disque qui s'en vient?
Je ne sais pas, je n'ai pas le temps à consacrer là-dessus. Je préférerais vous parler d'un livre qui est paru le mois dernier, qui est par mon amie la docteure Joanne Liu.
Oui, oui.
Donc, qui a été
lu,
présidente
oui.
pendant... Ah oui, tu as oui, déjà oui. lu. Parce oui. que, ouais, t'es un grand lecteur, je sais, et avide de tout ce qui est nouvelle internationale. Et elle a été la présidente élue parce que dans les des Médecins sans frontières en faisant le pont entre les Français, Kouchner et autres qui sont insupportables des fois, et le reste des députations, et en travaillant très fort aussi, et même en contredisant le président Obama qui lui avait présenté ses excuses pour le bombardement d'un de ses hôpitaux en Afghanistan. Mais elle avait dit, mais j'avais envoyé à l'armée américaine nos coordonnées pour s'éviter une telle chose. Et là, mon principal hôpital en Afghanistan a été détruit simplement parce que votre armée pensait qu'il pouvait atteindre là, un taliban. Et on voit que c'est la même tactique dans le fond que Netanyahou a usé en Gaza, en détruisant des hôpitaux partout, parce que peut-être qu'il y a des terroristes tapis dans le sous-sol.
Okay.
C'est horrible.
Oui, Pierre, le titre du livre...
Oui, c'est intéressant. Le titre du livre qui est paru à Libre Expression, c'est « L'Ebola, les bombes et les migrants ». Alors, le chapitre « Les bombes », c'est je viens de vous en parler.
D'accord.
Les migrants, on aurait toute une émission à poser là-dessus, dans le sens qu'on bombarde des pays qui ont détruit des maisons, et les migrants, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent chez nous, et ils renforcent l'extrême droite qui dit « On n'en veut pas d'immigration », alors que c'est l'extrême droite militariste qui bombarde ces pays-là, qui est responsable du nombre accru d'immigrants qu'on reçoit au Canada.
D'accord. Fait qu'on termine sur une note positive.
Oui.
En avez-vous une?
Écoute, moi, je pense que le développement de ce matin par l'ONU, qui a finalement accusé Netanyahou de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, ça peut paraître négatif, mais c'est positif. C'est-à-dire que le monde en a soupé de ce que les États-Unis veulent imposer et puis vont ailleurs actuellement. Et il faut appuyer ça de toutes nos forces.
Bon, mais merci beaucoup, Pierre Jasmin.
Merci, Claude. Et je te remercie toujours pour tes invitations opportunes, parce que cette semaine, c'est vraiment une semaine cruciale.
D'accord. Alors... c'est Claude Saint-Georges, Renouveau le futur, et on revient après une pause musicale, puis on va parler d'agriculture à Sherbrooke. Ce ne sera pas long. Merci. Oui, rebonjour, ici Claude pour À nous le futur. Maintenant que M. Jasmin a terminé, que je remercie beaucoup, qui est le secrétaire des artistes pour la paix et pianiste, maintenant nous allons interviewer Mme Gabrielle Rondeau-Leclerc, qui a fondé le groupe Rêve Nourricier. Elle va nous en parler bientôt. Et je vais dire un peu sa biographie. C'est elle-même qui l'a écrite à ma demande, là. C'est une Québécoise dévouée à changer notre façon de vivre en famille, en ville, pardon. À la fois biologiste, entrepreneur, social et artiste, elle est la fondatrice du réseau d'espaces verts éducatifs et nourriciers Rêve Nourricier, avec lequel elle accompagne des communautés dans le développement de jardins urbains, de forêts nourricières et d'autres espaces verts avec une approche participative. Jusqu'à maintenant, elle a accompagné près d'une trentaine de communautés dans l'implantation, l'agrandissement ou le suivi de leur projet agriculture urbaine. Elle offre des conférences et des ateliers sur l'agriculture urbaine au grand public depuis 2020, entre autres via le circuit nourricier, un circuit annuel d'ateliers à saveur éducative et artistique dans les jardins publics de Sherbrooke, sa ville natale. Elle a participé à plusieurs projets de recherche en écologie et en microbiologie, en ethnobotanique et en limnologie qui lui ont permis d'avoir un panorama des écosystèmes. Sa passion pour l'urbanisme l'a menée à suivre des formations avec l'Université d'été en agriculture urbaine à l'Université de Montréal, le laboratoire d'agriculture urbaine, c'est ça qui s'appelle de même, AU, espace, lab, le Centre d'écologie urbaine de Montréal et la Société québécoise des phytotechnologies. Et ces expériences confirment l'importance de retirer le bitume pour faire place à l'agriculture dans les villes du Québec en vue de limiter les problèmes liés au changement climatique. Enfin, Gabrielle croit qu'en éduquant des citoyens et à être plus en relation avec le vivant, ils s'allieront pour mieux régénérer l'environnement. Alors, vous êtes membre Gabriel, du collectif en sécurité alimentaire de Sherbrooke, n'est-ce pas?
Absolument, oui.
Bon, alors on va parler d'un projet ce matin. C'est celui du parc... j'ai égaré ma feuille en ce moment dans toutes les affaires.
Oui, le parc Bureau, Édouard Boudreau.
Bon, Boudreau.
Le parc Édouard Boudreau.
OK. Fait que ça fait quelques mois ou quelques années que vous faites ce projet-là?
C'est un projet qui a commencé... du moins, notre implication dans le projet a commencé en 2021. Mais le projet existait là, longtemps avant qu'on commence à s'impliquer, en fait.
OK. Et quel genre de participation citoyenne il y a dedans?
Donc, en fait, le parc Édouard Boudreau, c'est un parc dans l'est de Sherbrooke, entre la 10e et 11e avenue, disons, entre l'Arc Conseil et l'Arc King, pour vous donner une idée où est-ce qu'il se situe. Puis ça, c'est un parc qui se trouve à être dans un quartier résidentiel, quand même proche aussi des centres commerciaux sur la King. Et puis, c'était à l'origine un jardin solidaire. C'est-à-dire, un jardin solidaire, c'est quoi au niveau de l'implication citoyenne? C'est vraiment un jardin où les citoyens vont s'impliquer bénévolement pour finalement planter un jardin à chaque année, l'entretenir, en prendre soin, le surveiller. Mais la particularité de ce jardin-là, c'est qu'il n'y a pas de clôture. Donc, comparativement à un jardin communautaire qu'on connaît un peu plus comme formule, disons. Donc, l'implication citoyenne est particulièrement importante pour ce genre de projet-là parce qu'en fait, les citoyens permettent au jardin d'exister. Puis, ils ne s'attendent pas nécessairement à récolter les fruits de leurs efforts. Donc, il y a aussi quelque chose de très, quelque chose de très gratifiant, puis de l'ordre du don de soi aussi dans ce genre de projet-là.
Oui. Je pense que j'ai participé il y a deux étés dans celui-là.
Oui, oui, exactement.
Il y a une photo de moi.
Oui, je me rappelle.
Dans une affaire du changement climatique là, d'une médecin... Sherbrookoise, je ne me souviens plus du titre, là. Un guide sur les changements climatiques. En tout cas, fait que ça continue. Est-ce qu'il y a eu des récoltes cette année? J'imagine que oui.
Absolument. C'est sincèrement un très, très beau jardin là, qui est bien implanté parce que justement, avant 2021, bien, il y avait déjà des jardiniers qui s'impliquaient. Ils jardinaient plutôt en terre. Il y avait, je pense, 4 bacs. Puis quand on est arrivé en 2021, dans le fond, les bacs étaient désuets. Puis on voulait faire un agrandissement au jardin pour qu'il y ait une plus grande ampleur. Donc, on a augmenté à 11 bacs en collaboration avec la ville de Sherbrooke puis avec le conseil régional en environnement de l'Estrie. Mm-hmm. Puis on a planté, en fait, une forêt nourricière, c'est-à-dire un aménagement de arbustes fruitiers, de plantes vivaces comestibles, en terre directement. Mm-hmm. Puis, on a aussi planté un îlot pour les pollinisateurs, donc une panoplie de fleurs sauvages. Donc, au niveau des récoltes, en fait, c'est intéressant parce que là, ça commence à faire déjà quelques années que les arbres ont été plantés. Il y avait aussi une grosse haie de groseilles et de cassis qui était déjà là. Qui est juste l'abondance totale. Là, comme mm-hmm. Si vous cherchez au cueillir vos groseilles, c'est là que ça se passe. Puis, depuis qu'on a planté la forêt nourricière chaque année, il y a aussi une petite plantation d'ail qui se fait. Je ne sais pas si elle a été replantée cette année, par exemple, mais je sais que dans les dernières années, ça faisait des belles récoltes. Puis c'est ça, tu sais, après ça, il y a toutes sortes d'affaires. Il y a des fruits, des amélanges, il y a de la ciboulette, du thym, beaucoup de fines herbes dans les jardins. Fait que c'est pas les récoltes qui manquent, non. Mais tu sais, c'est sûr qu'il faut être respectueux par rapport au travail qui a été fait quand on va là-bas. Puis surtout, en laisser au suivant. C'est ça que je pense qui est le plus important. C'est un jardin solidaire. Fait qu'on va là-bas, on récolte, mais on récolte en se disant que on veut que tout le monde en ait, que tout le monde puisse profiter des récoltes, Fait qu'il faut pas détruire les plants. Comme quand on cueille une feuille de kale, ben, on veut s'arranger que le plant reste enraciné. Mm-hmm. Puis de pas enlever toutes les feuilles. Mm-hmm. Quand on cueille des fraises, ben, on va pas toutes ramasser les fraises qu'il y a. On va en cueillir quelques-unes.
Oui.
C'est pas là qu'on va faire nos réserves pour l'année, là, tu sais.
J'ai un livre en face de moi qui s'appelle « Veut-on nourrir le monde? Franchir l'Everest alimentaire en 2050 ». C'est un beau titre. Et puis le vôtre aussi, « Rêve nourricier », ça s'enligne là-dedans. Mais il y a quand même 13 % je crois, des Chabourquois, Chabourquoises qui ont faim. Est-ce que vous avez espoir qu'on arrive à zéro faim d'ici 2030, disons? On va dire que oui. On va dire que oui. Mais garde.
Je pense que c'est un bel objectif qu'il faut aspirer à atteindre, ça c'est sûr.
Oui.
Est-ce que vraiment on va y arriver? Je pense que il faut définitivement prendre des mesures de nouvelles ambitions.
OK. Puis justement, vous êtes très ambitieuse, là, très studieuse. L'ethnobotanique, qu'est-ce que c'est que vous avez étudié, l'ethnobotanique?
L'ethnobotanique, c'est un peu la relation entre la culture et les végétaux, la botanique. Donc, on pourrait dire que c'est une étude qui rallie un peu les sciences naturelles aux sciences humaines. Donc, on va venir étudier comment ça peut être, par exemple, des études sur les connaissances environnementales locales. Donc, on pourrait penser aux connaissances des personnes indigènes à un territoire, par exemple, ou des personnes qui habitent un territoire depuis très longtemps. Donc, de s'intéresser à leurs traditions en lien avec les différentes plantes ou encore l'usage traditionnel. On pourrait parler de médicinales ou de la transformation alimentaire. Donc, c'est vraiment qu'est-ce que les humains ont fait à travers le temps avec les plantes qui poussent sur ce territoire-là naturellement. Fait que souvent, on va parler des plantes indigènes, des plantes sauvages.
OK. Puis la limnologie, elle?
La limnologie, ça, c'est l'étude des lacs, l'étude des lacustres. Donc, la limnologie, c'est l'étude, en fait, de l'état de santé, par exemple, des lacs. Okay. Moi, dans le cadre de mes études, j'avais fait un grand voyage en Saskatchewan, au Manitoba, pour étudier les lacs là-bas, puis voir un peu c'est quoi l'état de santé, la qualité de l'eau, s'il y a la présence d'algues bleues, de cyanobactéries ou d'autres sortes d'algues, puis aussi des inventaires de biodiversité directement autour des lacs.
D'accord. Ici, au lac Magog, je pense qu'il y a un peu de PFOS, des perturbateurs endocriniens, mais peut-être pas beaucoup, là.
Ben, tu vois, ça, c'est quelque chose qu'on évaluait à travers les échantillons d'eau qu'on prenait. Donc, on prenait une centaine de différentes variables à chacun des lacs qu'on faisait. Puis juste notre équipe, nous autres, on étudiait, on a fait 50 lacs différents en 2 mois. Mm-hmm. Puis il y avait 4 autres équipes de terrain qui allaient dans différentes régions du Canada. Donc, c'est une montagne d'informations, une montagne de données pour étudier toutes sortes de choses, dont justement les contaminants. On parle de PFAS, on pourrait parler de caféine, on pourrait parler de la quantité d'oxygène dans l'eau.
Oui.
Donc, vraiment une grande variété d'informations qu'on peut aller chercher dans les lacs.
Oui.
Parce que les lacs, c'est un peu comme, je dirais, des reflets du territoire. Hein? Les lacs, ils ramassent tout.
Oui.
Quand il pleut puis que l'eau s'écoule dans les cours d'eau, ben, éventuellement, les cours d'eau vont se jeter dans des lacs. Puis les lacs, ben, ça, leur santé nous donne une très bonne idée de la santé du territoire qui est alentour de ces lacs-là. Donc, c'est très intéressant à étudier.
Et notre santé en dépend. D'ailleurs, les Autochtones en Abitibi, ça fait longtemps, là, ils ont mangé des poissons qui avaient été contaminés au mercure. Et ils ont attrapé la maladie de Minamata, comme au Japon. En Abitibi, on n'est pas fiers de ça. Et puis, la phytotechnologie, c'est quoi la différence avec les autres choses qu'ils avaient étudiées, là?
J'aime ça, vos questions.
Oui, ils sont un peu pas prévus, hein? En tout cas.
J'adore ça. La phytotechnologie, c'est phyto, ça réfère aux plantes. donc oui. au domaine végétal.
Okay.
Puis technologie, ben on sait c'est quoi la technologie. On pourrait dire la technologie, c'est des choses qui viennent rendre des services souvent aux humains. Donc, l'idée, c'est que les plantes peuvent être considérées comme des technologies qui offrent des services aux humains.
Ah,
donc,
oui.
Quand on plante un arbre, ça peut être aussi simple qu'un arbre, une phytotechnologie, là, mais ça peut être très complexe aussi. Mais mettons qu'on prend un arbre, puis qu'on le considère comme une phytotechnologie, ben c'est de se dire, je vais choisir de planter un arbre à cet endroit-là parce que il va me permettre de, par exemple, éviter que mon terrain s'érode avec le temps, donc ses racines vont tenir le sol.
Mm-hmm.
Ou il va permettre de gérer l'eau sur mon terrain. Donc l'arbre, c'est une pompe à eau. Donc il va mm-hmm. pomper l'eau du sol. Puis, il va aussi capturer l'eau qui s'écoule quand il pleut. Donc, l'arbre devient une phytotechnologie au service de l'homme puis de ses infrastructures, finalement. Donc,
oui.
les phytotechnologies, on appelle aussi ça des infrastructures vertes ou des infrastructures végétales. Fait que c'est un peu comme en comparaison à des infrastructures grises comme du béton,
ben,
puis
oui.
de l'asphalte, puis des bâtiments.
Oui, oui c'est, j'aime beaucoup ça. Ça me rappelle Vandana Shiva. Vous devez la connaître.
Oui.
Une agricultrice.
Ben, pas personnellement, par exemple.
Non, moi non plus. Moi non plus. Je bois ses livres. comme Soil, Not Oil, par exemple.
Mm.
Et puis, elle, les vers de terre, là, c'est les infrastructures, tu sais. Fait que c'est vraiment intéressant.
Oui. Ben, c'est vrai, ils font des infrastructures souterraines qui ont un grand avantage en agriculture, entre autres. Hein.
Oui. Puis elle dit que l'agriculture industrielle, avec le transport et tout ça, c'est 50 % des gaz à effet de serre. C'est dur à croire, mais quand on voit tout, là, c'est beaucoup. Et disons que l'agriculture, permaculture ou agroécologie, justement, ça, c'est une nouvelle question que j'ai pour vous. C'est quoi la différence entre l'agroécologie et la permaculture?
C'est une bonne question.
Okay.
Je pense que l'un peut englober l'autre, dans le sens que la permaculture, c'est plus général. C'est comme la permaculture, c'est à la limite, on pourrait dire une philosophie. Là, donc, l'idée, c'est de vivre dans un écosystème qui permet de répondre à nos besoins, puis qui a une portée permanente. Ça fait que tout ça, perma, c'est pour la permanence de cette culture-là. Donc, on va penser aux 7 générations futures dans les choses qu'on fait. Quand on décide, tu sais, la permaculture, c'est pas nécessairement juste relié à la façon de cultiver. Ça peut, parce que en fait, ça peut l'impliquer, mais ça peut aussi toucher à tout ce qui est des bâtiments. Fait que quand on s'achète, exemple, un terrain, quand on acquiert un terrain qu'on veut aménager puis qu'on choisit de l'aménager en permaculture, ben en fait, on va considérer toutes les activités qu'on va faire sur ce terrain-là, que ce soit nos déplacements, nos récoltes, notre entreposage, notre milieu de vie, donc notre maison, comment elle est construite.
Mm-hmm.
Puis on va s'assurer que chacune des choses qu'on fait, qu'on ajoute à notre système, notre système de vie, là, si je peux dire,
mm-hmm.
que chaque chose ait plusieurs utilités.
Mm-hmm. Okay.
Donc, par exemple, je plante un pommier à un endroit précis. Bien, ce pommier-là, je veux qu'il y ait plusieurs utilités. Donc, premièrement, peut-être qu'il va me fournir des pommes,
mm-hmm.
mais ensuite, peut-être qu'il va me fournir aussi de l'ombre.
Mm-hmm.
Puis peut-être aussi qu'il va me permettre, par exemple, de faire, je sais pas moi, un espace où je peux aller me relaxer, tu sais, aller méditer. Je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple pour dire que chaque chose a plusieurs utilités.
Oui. Relaxer en bouvant du mou de pomme.
Pourquoi pas?
OK. Puis, je voulais passer là, sur la question des phytoncides. Ça doit vous dire quelque chose, certain, ça?
Non, ça
OK, OK. Ben, en tout cas, c'est pas grave. C'est, tu sais, les bains de forêt, là, le Shinrin-yoku. Ça vient des Japonais, là. Si on se promène dans le bois, les arbres, surtout feuillus verts, génèrent des phytoncides. Puis ça, ça nous donne... Supposons qu'on passe 2 nuits, 3 jours en forêt, ça nous donne 1 mois de cellules anticancéreuses. Je suis fier de dire ça parce que je m'en souviens. Mais je n'ai jamais réussi à passer deux jours, trois nuits en forêt. Mais apparemment, apparemment seulement 20 minutes, ça peut aider beaucoup pour la santé.
Non, ça, c'est fou. L'effet qu'elle peut avoir, une simple marche en forêt sur notre système nerveux, là, c'est impressionnant.
OK. Spécifiquement nerveux, vous avez étudié cet aspect-là?
Moi, je n'ai pas étudié ça, non. Mais je le ressens.
Oh, ah bon, d'accord. OK, OK. C'est bon, c'est bon. Donc, on pourrait terminer là-dessus parce qu'on va se reparler quatre autres fois. On va parler de la forêt nourricière de l'École des Avenues, la microforêt Miyawaki, n'est-ce pas?
Miyawaki.
OK. Mm-hmm. Et puis, les infrastructures vertes au Conseil sport loisirs de l'Estrie et finalement, le jardin nourricier au CPE, les petites puces.
Ça c'est va, très ça? Excitant. Merci beaucoup, Claude, de m'avoir invité pour cette série en lien avec les projets du réseau d'espaces verts éducatifs et nourriciers. J'apprécie beaucoup. Oh. Puis au plaisir de se reparler la semaine prochaine.
Au plaisir, Gabrielle Rondeau-Leclerc, fondatrice de ce réseau-là sur l'agriculture urbaine. Alors, merci beaucoup. Bonne journée.
Bonne fin de journée. Merci. Bye bye.
Au revoir. Nous revenons à Nous le futur, c'est Claude Saint-Jean. Normalement, je parle des Autochtones au début de l'émission, mais vu la grève des étudiants, ça passe en premier. Quand même, je voudrais vous lire un petit mot qui c'est d'un catalogue de la librairie Anénorak, une librairie spécialisée dans les livres autochtones. Alors, ici, j'ai un mot du président qui est Daniel Siwi. La belle aventure, bon, dans juin, je lis Autochtones, continue. L'initiative a été créée en pleine pandémie pour vous inciter, vous, nos chers voisins québécois, à découvrir nos cultures par la voie de la littérature. Et vous avez été tellement nombreux à participer que nous n'avons eu d'autre choix que de revenir chaque année. Ce fut pour moi la preuve qu'il n'y a qu'un petit pas à franchir pour recréer les liens entre nos nations. J'ai l'impression que, durant les quatre années, nous allons... faire des pas de géant dans notre compréhension mutuelle. En tant qu'Autochtone, je ne peux que vous faire part de mon enthousiasme pour le futur de toutes les nations. Merci du fond du cœur d'être présent avec nous. Si vous lisez ceci, c'est que vous devez être, comme moi, un grand amoureux de la littérature. Nous avons déjà un point commun. Alors, cette année, nous nous sommes même métamorphosés comme tout bon trickster. Ça, c'est un mot autochtone, là. Qui se respecte en un vrai organisme à but non lucratif avec une mission élargie. En plus de vouloir de toutes nos forces partager avec vous les beautés de nos cultures, nous souhaitons aussi rapporter les bienfaits de la littérature dans nos communautés. Joignez votre générosité à la nôtre. Et puis, pour chaque sac vendu, parce qu'ils vendent des sacs, là, j'espère qu'on a ça peut-être à la librairie à Appalaches, nous engageons à donner un livre à un enfant autochtone. Alors, Tiyanwenik Kinani, c'est de Daniel Siwi, et ça veut sûrement dire l'équivalent de Mwegwesh, qui est merci. Alors, l'émission est terminée. Je sais qu'il y a des livres d'Autochtones dans 10 des 11 nations du Québec. Je vais vous lire ça la semaine prochaine, disons. Et puis, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. C'est Claude Saint-Jean pour À nous le futur à la radio CFAQ. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.